Un week-end meurtrier sur les routes calédoniennes. 3 personnes sont décédées cette nuit, dont un enfant de 5 ans. Au total, 5 personnes sont mortes dans un accident de la route ce week-end. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie annonce l'envoi d'une mission composée de 4 sapeurs-pompiers et d'une infirmière au Vanuatu. Les chocolats, une valeur sûre à offrir à Noël quand on veut faire plaisir. Mais cette année, les chocolatiers ont dû faire face à de nombreuses difficultés. Magazine complet à retrouver dans ce journal. À Mayotte, le bilan du cyclone Chido s'alourdit. Il fait désormais état de 35 victimes et 67 blessés graves. Sur place, la population manque encore de soins et de nourriture. Le sport, du football, Antoine Comboiré et le FC Nantes retrouvent le sourire. Le club s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. L'entraîneur calédonien qui a adressé une pensée à la Calédonie durant la conférence de presse. Bonjour à tous, bienvenue dans notre journal Info Week-end pour tout connaître de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une de l'actualité et sur le territoire, 2 nouveaux drames viennent s'ajouter à ceux d'hier dans ce week-end particulièrement meurtrier sur les routes calédoniennes. Après les accidents de Saramea et de Dumbéa que nous évoquions hier, 3 nouvelles victimes sont à déplorer aujourd'hui, Charlotte Coulson.
Un premier accident s'est déroulé vers 19h hier dans le col de Népouy sur la RT1. Parmi les 5 personnes présentes dans le véhicule, c'est un enfant de 5 ans qui est malheureusement décédé. Il avait été transporté avec sa mère au CHN de Koné, où il a succombé à ses blessures. Et puis à Puebo, 2 hommes sont morts sur la RPN10 vers minuit. Un véhicule avec 3 hommes à son bord a fait une sortie de route pour une raison qui reste inconnue. Les 2 passagers avant sont décédés. Le passager arrière est quant à lui grièvement blessé. Une enquête a été ouverte.
3 nouveaux décès qui s'ajoutent donc à ceux d'hier. Nous vous le disions, 2 hommes ont perdu la vie à Saramea et à Dumbéa.
Le premier survenu à Saramea vendredi soir concernait un homme de 48 ans ayant perdu le contrôle de son véhicule. Il est décédé peu de temps après l'arrivée des gendarmes sur place. Il était originaire de la tribu de Saramea. À Dumbéa, dans la nuit de vendredi à samedi, c'est vers 2h15 du matin, hier, qu'un piéton a été percuté par une automobile sur la voie express. Le corps de l'homme âgé d'une 30aine d'années a été retrouvé par des témoins près de la glissière de sécurité au niveau de la sortie Panda. Une enquête pour délit d'homicide involontaire aggravé par un délit de fuite a été ouverte.
La terre a encore tremblé cette nuit au Vanuatu. Une nouvelle secousse de magnitude 6,1 a été enregistrée à 2h30 du matin à une 30aine de kilomètres de Port Vila. Depuis le séisme destructeur de mardi dernier, plusieurs répliques ont été enregistrées, mais il s'agit là d'une secousse bien plus forte. Aucune alerte tsunami n'a été déclenchée. Une secousse qui n'affecte pas la reprise des vols commerciaux aujourd'hui. Les autorités du Vanuatu ont annoncé lever la suspension des vols dans le but de relancer le plus rapidement possible le tourisme sur l'archipel. Le dernier bilan faisait état d'au moins 12 morts, dont un Français et des centaines de blessés. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a tenu à de nouveau exprimer ce week-end dans un communiqué sa solidarité avec le peuple vanuatais. Et bien que les équipes de la sécurité civile ne puissent intervenir directement au Vanuatu en raison des risques incendies sur le territoire, plusieurs mesures ont été prises, Michael Juneski.
Oui, le gouvernement annonce qu'un soutien dans le domaine critique de l'accès à l'eau potable sera apporté. Pendant les 10 prochains jours, une mission composée de 4 sapeurs-pompiers volontaires du territoire intégrée à la plateforme d'intervention régionale de l'océan Pacifique Sud de la Croix-Rouge française se chargeront de la potabilisation de l'eau. 3 tonnes de matériel les accompagnent. Une infirmière, sapeur-pompier volontaire de la Nouvelle-Calédonie rejoint également le groupe médical sous la supervision du médecin de l'État. Elle participera si besoin aux actions médicales sur place. La mission s'est envolée hier et durera, je le rappelle, environ 10 jours.
Autre conséquence de ce séisme au Vanuatu, les élections générales anticipées du 14 janvier qui devaient avoir lieu sur l'archipel ont été reporté de 48 heures. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Ces législatives anticipées avaient été annoncées en réponse à la dissolution du Parlement par le président de la République, Nikenike Vurumbaravu. Cette décision faisait suite au dépôt par l'opposition de 2 motions de censure séparées. La première visait le Premier ministre Charles Salwai et la seconde, le chef de l'État en personne. Suite au violent séisme qui a fait plusieurs morts dans la capitale Port Vila, la commission électorale vient d'annoncer le report de ces élections législatives anticipées, lesquelles ont été symboliquement repoussées du 14 au 16 janvier. La nomination des candidats aux 52 sièges à pourvoir sera close le jour de Noël et la liste de ces candidats sera annoncée le 2 janvier. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
A signaler par ailleurs que les 26 membres de l'Assemblée législative tongienne se réuniront ce 24 décembre, veille de Noël, pour élire un successeur à Siaosi Sovaleni, lequel a démissionné de ses fonctions de Premier ministre le 9 décembre dernier. En bref, bonne nouvelle pour les passagers d'Air Calédonie. L'avion qui était tombé en panne hier à Ouvéa sera remis en service d'ici la fin de matinée à Magenta pour assurer les vols dès cet après-midi. Le second appareil basé à Magenta ayant lui aussi eu un problème technique hier n'est toujours pas réparé. Les pièces nécessaires ne sont pas encore disponibles. Rappelons que la flotte d'Air Cal comprend habituellement 4 appareils, mais en raison de problèmes budgétaires de la compagnie, un des ATR a été loué à Air Tahiti et un autre est en maintenance annuelle. Dans le reste de l'actualité, dernier jour ce dimanche pour découvrir les spécialités de l'IFU au marché du Betticho. Depuis hier, quelques dizaines d'exposants sont réunis à la gare maritime au Quai Ferry et les ventes ont été plutôt satisfaisantes, Charlotte Coulson.
Et oui, à l'inverse des retardataires ou des personnes qui travaillaient ce samedi qui ont été plutôt déçus parce que le plus gros des ventes s'est fait hier. Ce matin, il ne restait plus grand-chose des 4 tonnes de marchandises qui avaient été acheminées par bateau. Yvette Lowadja est venue spécialement de l'IFU et elle ne regrette pas d'avoir fait le voyage.
Ça a été super hier, on a vendu tout le produit. On a oublié qu'il y avait 2 jours. Ça fait que hier, on a tout vendu. On va prévoir beaucoup de stocks. Parce que là, on a vu qu'on n'a pas emmené beaucoup de l'IFU parce que comme il y a toujours des problèmes d'avion et puis de bateau, ça fait qu'on n'a pas pu prendre tout de l'IFU. Mais nous, on a beaucoup de produits à l'IFU. Mais la prochaine fois, si jamais c'est OK le bateau et l'avion, ben on va emmener beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça sera pour les 2 jours.
Et vous l'avez entendu, l'incertitude quant au transport pour aller aux îles pèse dans l'esprit des loyalsiens. Il faut dire que les exposants d'Ouvéa n'ont pas pu faire le déplacement. Mais encore une fois, la solidarité prime. Certains des producteurs de l'IFU ont fait appel à leur famille vivant sur la Grande Terre pour ne pas risquer de rester bloqués pour les fêtes.
La plupart, c'est à mon frère qui est sur l'IFU, qui est bloqué là-bas. Il a peur de venir, comme c'est la période des fêtes. Donc il a peur de venir et puis de rester bloqué ici à Nouméa à cause des problèmes d'avion.
La famille emmène les produits ici et puis je les vends sur place. Je les vends pour eux. Quand le conteneur il part avec les marchandises, ben, j'en vois aussi. Et puis voilà, ils donnent les enveloppes après. C'est plus simple.
Et le marché continue jusqu'à 16h cet après-midi. Alors dépêchez-vous car il reste à peine quelques mangues, papayes et bananes poingo sur place.
Du rythme bleu, il est 12h08.
Partons du côté des préparations de Noël. Nous sommes le dernier week-end avant la fête de la Nativité. Et parmi les lieux très prisés des Calédoniens à l'approche du réveillon, la poissonnerie du marché de la Moselle. C'est le reportage de Michael Juneski.
Bien sûr, pour marquer un peu le jour, mais ça dépend.
Ça dépend des prix.
Oui, exactement, parce que là, les prix ont flambé là.
Langoustes, crevettes, comme d'hab. C'est les prix seulement qui augmentent un peu.
C'est un peu les éléments de base pour le petit repas de fête là. Et puis du coup là on est en train de faire un petit tour justement pour préparer les repas. Les crevettes. Les petites crevettes et puis voilà. Enfin, surtout ça.
Les huîtres, ça c'est sûr, mais je me tâte encore. C'est au niveau des crevettes qu'on bug un peu.
Ben, des crevettes, des langoustes avec tout ce qui va avec. Quoi, hein.
Ben, on regarde les prix d'abord. Mais après, on voit.
C'est ça qui va décider du menu, c'est ça?
Oui, voilà. Tu vois le portefeuille, comment il marche? La langouste, je sais pas, de la salade.
Vous avez réussi à trouver ce qu'il faut, c'est pour Noël, je suppose?
Oui, ça va, ça va. Des langoustes. On a trouvé un peu des langoustes pour Noël.
Un petit plaisir.
Ouais, c'est un petit plaisir, ouais, c'est ça. Vu l'année qu'on a passée, il faut se faire plaisir un peu en fin d'année.
Du moment qu'on mange bien, c'est le principal.
Et voilà pour ces propos recueillis ce matin au micro de Michael Juneski. Et une question, un Noël est-il vraiment réussi sans quelques chocolats qui se glissent sous le sapin? Le territoire a la chance de compter de nombreux maîtres chocolatiers. Ils travaillent leur matière première avec beaucoup de passion pour que les Calédoniens finissent l'année sur une touche sucrée, non sans difficulté, Charlotte Coulson.
Oui, leur chiffre d'affaires repose en grande partie sur la période de Noël. Alors pas question pour les chocolatiers de louper le coche. À la Cabosse d'or à Nouméa, on se prépare depuis plus d'un mois aux ventes de décembre et ce, malgré les difficultés rencontrées cette année. Grégory Olotte est gérant de la maison.
On a deux périodes où on tourne bien, nous les chocolatiers, c'est Pâques et Noël. Noël, on va dire, c'est notre deuxième période faste. Je dirais que Noël doit représenter à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. On commence en principe nos productions vers le début novembre. On a beaucoup d'entreprises qui nous commandent, on va dire, les premières semaines de décembre. Et en fait, les particuliers, c'est surtout la dernière semaine. On a un climat qui ne prête pas vraiment à la conservation du chocolat. Donc il y a beaucoup de gens qui préfèrent venir à la dernière minute. Et nous, notre défi, c'est de réussir à avoir une gamme assez complète jusqu'au dernier jour. On a un peu moins de personnel cette année, on prend des extras, on en a pris un peu moins cette année. Mais bon, en instant, on arrive à travailler correctement.
Effectivement, moins d'extras cette année, car comme de nombreux commerces, il faut faire tourner le business avec un budget resserré. C'est le cas également à Post Chocolat, à la Vallée des Colons. Après les émeutes de cette année, l'équipe a dû se séparer d'un employé sans le remplacer, car la crise calédonienne n'épargne pas les artisans du chocolat. Pire encore, elle se rajoute à celle mondiale du cacao que subit de plein fouet Jonathan Bataille, le gérant de Post Chocolat.
On est dans le secteur de l'alimentation, donc j'ai envie de dire, peu importe les crises, on arrivera toujours à sortir notre épingle du jeu. Sauf que plus les crises passent en Calédonie, et moins on y arrive en fait. Donc il est clair que cette année, avec tout ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie déjà, c'est très compliqué. Au-delà de ça, dans mon secteur d'activité qui est la chocolaterie, depuis un an, on a une grosse crise mondiale de cacao. Pour vous donner juste deux chiffres assez importants, en bourse, on achetait à 2 500 $ la tonne de cacao. Hein. On est passé à entre 11 et 12 000 là actuellement. Donc évidemment que si demain votre matière première fait x5, la crise elle est là pour nous, quoi.
Post Chocolat qui s'adapte tant bien que mal en réduisant notamment l'offre de sujets, comme chez Morand au quartier latin. On remarque un changement dans les pratiques des consommateurs. Lorsque le pouvoir d'achat est réduit, comme cette année, on privilégie les petits achats. Ludovic Panier, gérant de la maison Morand.
Bah oui, c'est une année très spéciale parce qu'on a été impacté sur énormément de sujets, nous, qui ont touché la taxe sur le sucre, la hausse du chocolat et tout ce qui s'est passé. Donc cette année, on a aussi décidé de renouveler toute notre gamme de chocolat de Noël et on a justement fait que des nouveaux sujets avec des prix entre 1000 et 2000 francs pour vraiment essayer de faire des petits prix pour tous les budgets, quoi. C'est vrai qu'en fait, si on revient un petit peu, il y a 3-4 ans, les personnes prenaient des gros sujets en chocolat. Se faisait vraiment plaisir. Maintenant, on est plus sur plein de petits sujets pour offrir à beaucoup de monde, parce qu'on aime bien offrir à ses collègues de travail, à ses amis, à sa famille. Donc, on ne peut pas mettre un gros budget pour tout le monde. Donc, on est revenu sur des plus petits sujets, très mignons et en qualité de chocolat, comme on sait faire.
Et puis finalement, peut-on parler de chocolat sans parler de Biscochoc, l'entreprise calédonienne qui a été saccagée pendant les émeutes. Chaque année, leur création en chocolat alimente les rayons des supermarchés, comme à Géant-Sainte-Marie, où on avait l'habitude de proposer une gamme de chocolat local à Noël. Cette année, c'est l'import qui prime, comme l'explique Emmanuel Moreno, le directeur de la surface commerciale.
Les commandes sont passées depuis le mois de juillet pour ce qui est l'importation. Et puis un petit peu plus tardivement, vers septembre, sur ce qui est la production locale. Donc ça n'est qu'une particularité, c'est que Biscochoc, qui d'habitude est en production locale, eh bien, a importé suite aux événements de milieu d'année où son usine a brûlé. Donc lui-même est passé sur un assortiment d'importation. On a Socalais qui fait sa production locale, mais c'est le seul. Et le plus gros faiseur qui était Biscochoc les années précédentes, en fait, se retrouve à faire de l'importation sur un assortiment extrêmement court, puisque l'année dernière, on avait 46 référents chez eux, et là, on doit en avoir à peine 20. La gamme a diminué, effectivement, parce que se retourner rapidement pour trouver des produits en import, avec les délais de fabrication et d'acheminement sur le territoire, c'était très compliqué pour eux.
Une année donc mouvementée pour les chocolatiers, mais ils gardent espoir, car comme ils le disent, le secteur de l'alimentation se relève toujours. Et puis quoi de mieux pour booster son taux d'endorphine que d'avaler quelques carrés de chocolat?
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Il s'agit du dernier jour pour participer à notre grande opération au cœur de Noël, une opération solidaire RRB où chaque cadeau que vous apportez est redistribué aux enfants les plus démunis jusqu'à 16 ans. Lancée début décembre, cette opération est un grand succès et tout ça, c'est uniquement grâce à vous. On ne compte plus les fidèles auditeurs venus les bras chargés de cadeaux et pour cela, un grand merci. N'hésitez pas à venir nous rendre, venir nous rendre visite cet après-midi directement à RRB. Aux 4 rue de Sébastopol. Nous serons ravis de vous accueillir jusqu'à 19h. Midi 15, première pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité du côté national et international. A tout de suite.
Wow.
pour un Noël pétillant et féerique, Créator est ouvert tout le week-end. Alors prêt pour un Noël joyeux en diamants et en perles? Rendez-vous chez Créator. Toutes les infos sur Facebook, bijouterie Créator. Créator, le plus grand choix de bijoux de Nouvelle-Calédonie.
Attention, important. La ville de Nouméa a dû procéder à un toilettage des listes électorales face à de nombreuses adresses de domicile incorrectes. Certains d'entre vous ont pu être radiés. Vous devez vérifier votre inscription sur le site www.electeur-nc.fr. Si tel était le cas, vous devez procéder à votre réinscription, soit à l'hôtel de ville, soit par Internet sur le site www.nouméa.nc, soit par courriel à l'adresse suivante vie.citoyenne@ville-nouméa.nc. Important, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous réinscrire. N'attendez pas le dernier moment. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous devez aussi le faire avant le 31 décembre 2024. Pour tout renseignement, appelez la mairie de Nouméa au 27 31 15.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Weekend, on retrouve Léana Colombo.
Et à la une de l'actualité nationale, le président de la République Emmanuel Macron a célébré, comme le veut la tradition, Noël avec les forces armées françaises déployées à Djibouti. Il s'est exprimé avant de partager un repas aux côtés des militaires. Il a évoqué notamment le cas des soldats déployés dans le monde et dans les Outre-mer, y compris en Nouvelle-Calédonie. On écoute Emmanuel Macron.
L'année 2024 l'a montré comme peu d'autres. Mais nous vivons dans un monde en transformation accélérée où la menace elle-même change. Regardez, nos outre-mer, nos armées y ont un rôle, pour certaines historiques, mais qui est complètement en train de se réinventer. On le voit quand il s'agit de lutter depuis tant d'années contre l'orpaillage illégal en Guyane. On le voit quand il s'agit de lutter contre les narcotrafics aux Antilles. Mais ce qui a été fait par nos forces armées en quelques mois, de la Nouvelle-Calédonie à Mayotte, est exemplaire. Exemplaire. Et je pourrais citer tous nos territoires ultramarins où les opérations conduisent, la présence de nos forces, la Réunion aussi bien évidemment, change la vie, marque la présence de la France, est au cœur des préoccupations du pays, de sa sécurité.
Le président français qui se rend aujourd'hui en Éthiopie après avoir été à Mayotte. Mayotte où justement le bilan humain reste très délicat à consolider selon le ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau. 35 personnes sont mortes, 78 autres blessées. 108 personnes ont fait l'objet d'un rapatriement sanitaire vers la métropole. Et sur place, l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes une semaine après le passage du cyclone Chido. L'alimentation en eau courante a été rétablie dans le chef-lieu de l'archipel à Mamoudzou, mais les habitants sont à bout. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Oui, ici à Mamoudzou, dans plusieurs quartiers où je me suis rendu aujourd'hui, de nombreux habitants me disent n'avoir toujours pas reçu d'aide humanitaire. Ils déplorent aussi une faible présence, voire même une absence des services de l'État. Guilhem vit dans le quartier de Kavani, dans le sud de Mamoudzou.
On n'a pas vu un policier, pas un militaire, pas un pompier, déblayer, organiser des distributions. Franchement, on a pas mal bougé dans Mamoudzou et on n'a vu personne. Mais apparemment, il y avait la Légion qui avait organisé une distribution d'eau hier. C'est trop peu et là, en fait, ça fait une semaine que c'est passé. Pourquoi est-ce qu'on en est toujours à être dans l'urgence?
Alors, depuis une semaine, c'est toute une chaîne de solidarité qui se met en place sur les hauteurs de Kavani. Des infirmiers proposent les premiers soins aux habitants blessés en dehors de leurs heures de travail. Céline a même mis la main à la poche.
On est allé nous-mêmes acheter des pansements, de la bisatine, des strips, tout pour faire des plaies en fait. Là, il faudrait qu'on essaye de se fournir en crème contre la gale parce qu'on a beaucoup de cas de gale ici.
Dans le quartier voisin de Passamenti, j'ai rencontré un autre infirmier qui se rend lui dans les bidonvilles pour offrir ses services. Plus au sud, ce sont des enseignantes qui distribuent des pastilles pour purifier l'eau. Elles manquent toujours ici à Mayotte malgré le retour très partiel de l'eau courante.
Un reportage signé Wilfried de Villers, envoyé spécial à Mayotte pour Europe 1. L'actualité internationale, c'est aussi des motivations encore assez floues. Au lendemain de l'attentat, la voiture Bélier sur un marché de Noël à Magdebourg en Allemagne. Un médecin psychiatre de 50 ans d'origine saoudienne interpellé hier et suspecté d'avoir foncé avec une voiture sur la foule. Il y aurait au moins 5 morts, dont un enfant de 9 ans et 200 blessés selon le dernier bilan officiel. Au vu de la gravité des blessures pour certains, le bilan pourrait encore évoluer. Selon la police et le parquet, l'auteur a agi seul et semblait avoir été mécontent du traitement des réfugiés saoudiens en Allemagne. Une messe a été célébrée dans la cathédrale de Magdebourg pour rendre hommage aux victimes ce matin pour nous. Et chez les habitants, l'émotion était toujours vive.
J'ai appris la nouvelle sur mon téléphone. J'ai tout de suite allumé ma télévision et appelé tous mes amis et mes proches pour savoir s'ils allaient bien. C'était terrible.
J'ai vu beaucoup de détresse, des personnes qui recherchaient leurs proches. J'ai vu aussi beaucoup de larmes.
On est allé au marché un peu avant 18h hier. En y repensant, à quelques minutes près, ça aurait pu se produire pendant qu'on y était.
J'étais particulièrement mal quand j'ai entendu qu'un enfant était mort. Et quand j'ai vu tous ces gens par terre et la manière dont le SUV est passé au travers de la foule, j'ai vraiment très mal dormi. Ça concerne tout le monde.
Une attaque qui en rappelle une autre. Il y a presque 6 ans, jour pour jour, la France était la cible d'un attentat terroriste faisant 5 morts et 1 blessé au marché de Noël de Strasbourg. Allez, midi 21, dernière pause dans ce journal avant de voir tout le sport.
Avec Canal+, vivez les émotions de Noël. Profitez de l'offre exceptionnelle de cette fin d'année. Plus de 85 chaînes, dont toutes les chaînes Canal+, à seulement 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs pendant 2 ans. À vous, le meilleur du sport et le cinéma ultra récent à prix canon. Un petit truc en plus, Mad Max Furiosa, Godzilla by Kong, Vice Versa 2 ou encore Le Comte de Monte Cristo. Tout ça arrive déjà sur Canal+. Alors faites-vous plaisir à seulement 3000 francs par mois. Jusqu'au 31 décembre, pour tout nouvel abonnement de 24 mois à Sélection Plus, moins un coût offert, puis 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs par mois pendant 2 ans. Remise également valable pour un abonnement de 12 mois. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite du programme, c'est avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Le sport et du football à la une avec la suite de la Coupe de France et les Nantais poursuivent l'aventure, Michael Juneski.
De bonnes nouvelles donc pour Antoine Comboiré. Tout d'abord, le FC Nantes qui a renouvelé sa confiance au coach après des semaines de tourmente où plusieurs pistes étaient étudiées pour un changement d'entraîneur. La direction du club a décidé de conforter le Calédonien dans ses fonctions et les Nantais ont répondu par une victoire large sur le club de Drancy, évoluant en National 3 pour accéder au 16e de finale de la Coupe de France. Les Nantais l'ont emporté 4-0 pour Antoine Comboiré. La Coupe de France reste un objectif pour un club en difficulté dans le championnat de France.
Nantes a quand même fait des finales. Des finales, on n'en a gagné que 4. Mais dans l'histoire du club, après 81 ans donc, d'histoire, 10 finales, ça veut dire que Nantes est un spécialiste de la Coupe de France. Donc c'était important donc, de savoir qu'aujourd'hui, on est en 16e. Il ne reste plus que 4 matchs pour aller au Stade de France. Mais on le sait qu'avec notre parcours en championnat, il n'y a rien de mieux que de gagner des matchs de Coupe de France parce que je suis persuadé que ça te donne la dynamique, ça te donne la confiance, ça te donne la possibilité de surtout de revenir le 5 janvier face à Lille avec plus de confiance que si on avait perdu, ça nous ferait plus mal à la tête.
De bonnes nouvelles et des espoirs pour 2025. Antoine Comboiré, au micro RRB de Xavier Robert, a également délivré un message pour la Nouvelle-Calédonie.
J'allais dire, avec ce qu'on a vécu donc, cette saison, parce que je me mets dedans, j'ai toute ma famille là-bas, avec les événements et tout, ça a été une année très compliquée, donc il faut juste leur souhaiter de passer de très 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 bonnes fêtes de fin d'année, et puis surtout repartir sur un nouveau cycle. Voilà, on aimerait que là-bas les gens travaillent ensemble, vivent ensemble, et puis surtout... reconstruise le pays. On en a bien besoin.
Des propos recueillis donc par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Retour à la Coupe de France. Parmi les autres résultats du jour, 12 matchs étaient au programme ce dimanche. L'Olympique Lyonnais qui s'en est sorti de peu sur le terrain de Fénix Aulnois. Succès 2-1. Montpellier, à l'inverse, club de Ligue 1, a coulé sur le terrain du Puy. Équipe de National 2, une défaite des Montpellierains 4-0. Saint-Brieuc a aussi éliminé les Havrais, pourtant en première division, 1-0. Brest s'en est sorti sur la plus petite des marques face à La Roche-sur-Yon, victoire des Bretons 1-0. Nice s'est qualifié à l'issue des tirs au but face à Corté. Le score était de 1-0 à la fin du temps réglementaire. Enfin, notez que les Réunionnais de Saint-Denis ont perdu à Dives-Cabourg en Normandie 2-0. Il y aura encore des rencontres à venir demain et notamment des chocs Saint-Étienne Olympique de Marseille ou encore Lens Paris Saint-Germain.
Partant du côté des terrains de rugby, on joue la deuxième journée du top 14.
Et tout d'abord, cette victoire du Stade Rochelet face à Clermont 20-15. De son côté, Montpellier l'a emporté sur le Racing 92 21-17. Autre victoire à domicile, celle du RC Toulon qui a écrasé la section paloise 56-25. Les Bretons de Vannes étaient tout proches d'une nouvelle victoire mais ils se sont inclinés finalement contre l'Aviron Bayonnais 27-21. Le Stade Français a dominé Perpignan 24-7. Et enfin, l'Union Bordeaux-Bègle s'est imposée à Castres 13 à 3. Un essai du Calédonien Yoram Moefana. Une victoire qui permet à l'UBB de prendre provisoirement la tête de ce championnat de France. Demain, la dernière affiche opposera Lyon au Stade Toulousain.
De la boxe avec un combat des titans qui se tenait ce matin.
Alexander Usyk a battu pour la deuxième fois d'affilée Tyson Fury à la décision des arbitres sur les rings de Riyad. L'Ukrainien demeure invaincu avec cette 23e victoire et surtout, il reste le patron chez les poids lourds. Encore une fois, dans un choc au sommet, c'est Usyk qui a pris l'avantage et ce, malgré cette fois une meilleure résistance du Britannique. Plus dynamique, constamment porté vers l'avant, Usyk a confirmé sa domination face au Gypsy King. Après avoir abandonné sa ceinture IBF récupérée par le Britannique Daniel Dubois en septembre dernier, Usyk conserve ses ceintures WBO, WBA et WBC.
Et on rappelle enfin que dans la région, les sélections calédoniennes jeunes de handball ont fait le doublé à l'IHF Trophy.
En Polynésie française, les moins de 18 ans ont battu en finale la Nouvelle-Zélande 47-27. Les moins de 20 ans aussi l'ont emporté en prenant leur revanche sur les Néo-Zélandais en finale 32-27. Vous avez pu entendre les différentes réactions dans nos précédentes éditions. Grâce à ces victoires de prestige, les sélections jeunes ont gagné le droit de jouer les phases intercontinentales, étape qualificative, pour espérer disputer les championnats du monde 2025 de leur catégorie d'âge.